You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Arpin Basu en ce mardi 12 octobre. Et oui, même si on vous avait dit qu'on faisait nos podcasts le mercredi, c'est le début de la saison. Mercredi, donc on s'est dit, on va prendre un petit peu d'avance, on va vous sortir ça mardi. Bonjour Arpin, ça va bien?
Oui, ça va très bien Marc-Antoine, on est sur le point d'aller à Toronto, la saison arrive au grand pas. Je suis fébrile. Je suis fébrile à l'arrivée du saison. Finalement, en fait, ça, j'ai encore l'impression que la saison vient de terminer, la saison passée.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça. On est prêt pour une autre marathon. Puis il y a beaucoup de questions à se demander sur cette équipe-là. Puis pour le faire, comme on le fait à chaque année, au tout début de la saison, on a notre ami Pierre Lebrun qui est avec nous de Toronto. Salut Pierre.
Salut mes amis. Bon, on va se voir dans la passerelle à Toronto.
Ça va faire du bien, hein, finalement?
Ouais,
hein?
Ouais, écoute, j'ai très hâte.
Un petit peu
un sentiment de retour à la normalité. On ne sera pas fâché avec des estrades remplies au Centre Air Canada.
Ça va être mon premier match dans
l'Arena Scotiabank.
Dans une arena d'Arena.
Ah, pardon, excusez-moi, l'Arena Scotiabank,
ouais.
Qu'est-ce que je dis là?
Ouais, c'est ça.
Ça va être la première fois dans une arena internationale pour moi depuis la pandémie.
Ah, ouais. Hein?
Ah, ouais.
Oh, ouais, wow. Moi, j'ai décidé, j'attendais que les partisans reviennent pour mon retour. Alors voilà.
Parce que ça fait plus de monde pour t'acclamer. C'est ça là.
Ouais, c'est ça. Ça fait plus de monde avec qui partager l'air dans la pièce. Là.
Alors, c'est
parfait.
Ça. Écoute, Pierre, on va sauter dans le vif du sujet tout de suite. Il y a eu beaucoup de changements du côté du Canadien au cours des derniers mois depuis leur présence en finale de la Coupe Stanley. Des changements d'effectifs sur la glace. Mais je pense que un des sujets qui titille le plus les amateurs, puis tu as été vraiment à l'avant-plan de cette nouvelle-là au cours des dernières semaines, c'est le statut de Marc Bergevin, le directeur général. Donc, on rappelle qu'il entame la dernière année de son contrat. Il y a eu des négociations qui devaient mener à l'obtention d'une prolongation de contrat pour le directeur général du Canadien avec l'équipe. Ça ne s'est pas fait. Et selon toute vraisemblance, donc il n'y aura pas de négociation durant la saison. Donc, on remet ça après la saison. Toi, quand tu entends cette situation-là, qu'est-ce qui te vient en tête et à quel point es-tu optimiste ou pessimiste à l'égard du retour de Bergevin dans ce poste-là, au-delà de cette saison?
Moi, je te dirais que je suis pessimiste présentement parce que lorsque le Canadien a annoncé à travers de Paul Wilson avant la conférence de presse de Marc Bergevin pour parler de Carey Price, que le Canadien n'était pas pour gérer l'affaire Bergevin jusqu'après la saison, il y a vraiment juste une conclusion à faire vu qu'il n'a pas signé un nouveau contrat. C'est que ça reste pas bien de temps de conclure une nouvelle entente après la saison. Puis d'ailleurs, c'est sûr que même qu'on a essayé de demander à Marc durant la conférence de presse en français et en anglais, tu sais, comment il se sentait au regard de ça. Il peut pas le dire, évidemment, mais j'imagine qu'à l'intérieur, c'est très décevant qu'il n'ait pas signé un nouveau contrat avant la saison. Puis je pense que ça remet beaucoup de doutes sur qu'est-ce qui vient là cette saison. Tu sais, évidemment, lui, Marc Bergevin a mis beaucoup de son cœur dans cette équipe-là. Puis tu vois, tu l'as vu encore une fois quand il a parlé de Carey Price. Mais ça va être difficile pour lui, je pense, émotionnellement, de savoir que tu sais, s'il commence les négociations avec Suzuki ou Ben Sherrod durant la saison, c'est-tu vraiment pour lui de finir ces contrats-là s'il se fait remplacer après la saison? Alors, c'est des doutes. Puis je pense que je suis pas mal sûr que Marc Bergevin a les mêmes doutes que nous autres. Tu sais, c'est qu'est-ce qui va se passer après cette saison? Bon, une chose que je te dirais, c'est que même que le Canadien a annoncé qu'il ne voulait pas gérer là-dessus durant la saison, ça arrête pas le fait que Jack Wilson, on le dit au mois de janvier, après les fêtes, pourrait revenir à Marc Bergevin avec un offre. C'est quand même réel que ça pourrait arriver.
Ouais.
Fait qu'il faut quand même laisser la porte ouverte pour ça. Mais il faut quand même parler des faits présentement. Puis les faits présentement, c'est qu'il y a eu un offre au mois de juillet, selon mes informations. Puis évidemment, c'est un offre qui n'a pas été traduit dans une nouvelle entente pour Marc Bergevin. Alors, lire entre les lignes.
Oui, non, effectivement, c'est pas difficile de lire entre les lignes dans ce cas-là. Mais tu mentionnes le dossier de Nick Suzuki qui est comme exemple. Mais je pense que ce qui est plus pertinent dans ce cas-ci, c'est disons que les Canadiens, on se rend au mois de février, puis contre toute attente, ils sont deuxième ou troisième dans la division. Disons, OK? Probablement pas, mais on verra. Mais puis ils sont dans une position où ils sont acheteurs, tout d'un coup. Moi, je me rappelle, j'ai couvert les Expos l'année où ils voulaient éliminer les Expos comme équipe, puis Omar Minaya était le directeur général de l'équipe, puis il était comme, bon, ben, on a toutes sortes d'espoirs dans l'éliminaire. On va aller chercher Bartolo Colon, puis on va payer un prix complètement ridicule, parce que who cares? On serait pas une équipe l'année prochaine, alors so what? Marc-Georges, évidemment, c'est pas la même situation, sauf que il faut se demander à certains points à quel point ça va fonctionner entre ces deux hommes-là, entre Jeff Molson et Marc Bergevin, si jamais il est dans une situation où ils pourraient changer leur choix de première ronde l'année prochaine, étant donné que le repêchage est à Montréal en plus, ou toutes sortes de situations qui touchent sur l'avenir de l'équipe contre le présent, et à quel point il y aura l'autonomie de le faire. Tu sais, comment tu penses que la dynamique entre Jeff et Marc pourrait fonctionner cette saison dans les circonstances actuelles?
Non, écoute, c'est pas parfait. C'est la réalité. Puis je sais qu'il y a pas, tu sais, Marc Bergevin ne voudra pas parler cette année, Jack Wilson non plus. Mais la réalité, c'est que c'est pas parfait comme condition. Tu sais, il y a un exemple en fait, au baseball qui est encore plus récent, Urban, c'est quand Alex Anthopoulos était dans sa dernière saison comme directeur général des Blue Jays. Puis il savait, lui, nous autres, on savait pas les partisans, mais lui, il savait qu'il était pour être parti. Parce qu'il s'est pas fait signer, lui, un nouveau contrat par les propriétaires de Blue Jays. Lui aussi, il en a fait des échanges dans sa dernière année, puis Blue Jays a fait des séries, mais il a changé des jeunes joueurs, des jeunes espoirs, parce que c'était clair qu'il était all-in parce qu'il savait qu'il s'en allait. Fait que des fois, c'est dangereux. J'ai pas l'impression que Marc Bergevin voudrait faire ça. Je pense qu'il respecte trop le fait qu'il veut garder les choses une belle place pour le gars qui va le remplacer. Bon, je vais te dire encore, là, c'est encore possible que Marc Bergevin est directeur général l'année prochaine. Il y a encore une chance que Jeff Molson et Marc Bergevin s'entendent, tu sais, avant le 1er juillet. C'est important de le dire parce que je pense qu'il y a les émotions là-dedans des fois. Et peut-être qu'à ce moment passé, Marc Bergevin, personnellement, il y avait de l'émotion, mais peut-être dans 3-4 mois, les deux, ils se prennent ensemble. Mais il risque quand même du fait que je pense que les deux sont parlés au mois de janvier l'année passée, ben cette année, au mois de janvier, encore une fois au mois de mars, puis encore une fois, évidemment, au mois de juillet avec l'offre. Alors, ça c'est pas encore fait.
Mais, tu sais, je regarde la situation. Je crois comprendre que le salaire pourrait être un enjeu dans cette négociation-là. Marc Bergevin doit se présenter devant Jeff Molson, dire « Écoute, je viens d'amener l'équipe en finale de la Coupe Stanley. J'ai eu d'autres présences en finale de conférence. Le réseau, le pipeline d'espoir est quand même en bonne santé. J'ai relevé la mission que tu m'avais donnée. Quand on a fait le reset nous a amené en finale de la Coupe Stanley. Ça fait 9 ans que je suis à la tête d'une équipe où il y a énormément de pression. C'est une pression que je n'aurais pas si je travaillais à Nashville ou à Anaheim. » dans ce contexte-là, peut-être que lui, il se voit, il se considère en droit de réclamer un salaire qu'il placerait vraiment dans l'échelon le plus élevé des directeurs généraux. Fait à partir du moment où Jeff Molson ne veut pas lui donner ce salaire-là, ça prendrait quoi dans l'éventualité, dans le déroulement de la saison qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se produise pour que subitement Jeff Molson dise: vous savez quoi, je pense que Marc Bergevin, il mérite cet argent-là, puis je vais lui donner pour X nombre d'années. C'est ça qui me dérange. Je me mets à la place du GM, puis je me dis, là, si après tout ce qui est arrivé, j'ai pas obtenu suffisamment la confiance de mon propriétaire pour obtenir le montant que je veux, ça va prendre quoi pour que je l'aie, là?
Mais premièrement, une chose à souligner, c'est que les directeurs généraux sont pas organisés comme les entraîneurs-chefs. Les entraîneurs-chefs discutent beaucoup de leur salaire entre eux autres. Ils ont une association des entraîneurs qui est rendue très forte, organisée, centrale. Ça a vraiment aidé au salaire des entraîneurs-chefs de monter dans les dernières années. Les gérants sont pas de même. Puis peut-être les directeurs-gérants sont trop proches du propriétaire. Ouais. Faut pas toucher le soleil. Faut te faire brûler. Alors, faut-tu faire attention des fois parce que c'est un peu plus secret. Puis en fait, en général, les salaires des directeurs gérants, ça sort quasiment jamais. Ça a sorti avec Ken Allen. Moi, j'ai sorti, puis d'autres aussi, mais Ken Allen, il touche du 5 millions par année à Edmonton. Mais en général, c'est moins que ça pour les gérants. Glenn Saylor, il a fait de la belle argent à New York aussi. Mais c'est de savoir, en général, tu sais, c'est quoi les hauts salaires pour les directeurs gérants. J'imagine qu'entre eux, puis Marc Bergevin, c'est un gars qui est très populaire parmi les gérants. On a parlé souvent de ça aux réunions des gérants. C'est très évident que c'est un gars qui est chaleureux, puis les autres gérants le supportent. Les gérants étaient tellement contents pour lui que les Canadiens se rendent à la finale de Coupe Stanley à cause de leur relation avec Marc. Ouais. Ça, c'est vraiment évident le printemps et l'été passé. Fait que c'est sûr que j'imagine que Bergevin a quand même un peu d'informations sur ce que ses collègues alentour de la Ligue font comme salaire. Puis, écoute, sans savoir ce qui s'est passé jusqu'à temps entre lui et Jeff Molson, je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine, il y a juste une conclusion, c'est qu'ils ne sont pas sur la même page sur le salaire. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui doit arriver? Ben, il y a deux choses. Un, si le Canadien surprend, tu sais, je pense qu'on est d'accord. Moi, je me sens que le Canadien va prendre un peu de recul, comme un reset un peu. C'est normal, tu sais, Price pour commencer la saison, Philippe Dano, etc. Je pense que ça va prendre un peu de recul, mais c'est correct. Les jeunes vont continuer à développer. Mais si les Canadiens font mieux qu'on pense, est-ce que c'est quelque chose qui, encore une fois, donne l'évidence à Jeff Molson qu'il y a juste un gars pour la job? Deuxièmement, je dirais que l'autre, c'est que si Jeff Molson, secrètement, commence à regarder des candidats, se rend compte peut-être que les candidats qu'il veut sont pas là ou sont pas qu'est-ce qu'ils pensaient. Je sais pas, mais ça se peut bien que quand il commence à regarder au futur sans Marc Bergevin, que soit il est heureux avec ses choix ou peut-être qu'il se rend compte que le meilleur choix, c'est le gars qui a déjà présentement. Fait que peut-être que ça se déroule.
Ouais. Peut-être que Jeff Molson décide que ça lui tente pas de faire une recherche de DG aussi. Là, c'est pas évident comme tâche, particulièrement si on s'attend que le DG soit bilingue. Ça rétrécit par beaucoup, beaucoup plus que pour l'entraîneur. Mais pour le directeur général, ça rend le, c'est, disons, le bassin de candidats très, très petit, dans le fond. Alors, je pense que c'est un facteur très réel dans ce cas-là. Je voulais t'en parler, Pierre, parce que dans le fond, c'est pas sans précédent qu'un directeur général rentre dans sa dernière année de contrat. C'est déjà arrivé. Peut-être pas dans un marché comme Montréal, mais quand même un marché comme Calgary l'a vécu récemment avec Brad Tree Living. Je sais pas, à ta connaissance, est-ce qu'il trouvait ça difficile? Est-ce que c'est la gestion de l'équipe, il me semble, serait différent qu'un gars qui a une certaine sécurité après l'année. Je sais pas à quel point tu as parlé avec Brad pendant cette année-là, mais as-tu une idée de comment il a trouvé ça, si c'était plus difficile que normal pour lui?
Oui, j'en ai parlé de Tree Living. Je vais faire attention parce que je pense que quand je pense à ça, il y a trois ans, je pense qu'on n'était pas on the record. Je veux juste faire attention.
mais sans révéler des secrets, là.
Ouais, non, mais je pense c'est correct de dire que je pense que ça a été difficile pour lui. Ça a été difficile, tu sais, pour le restant de son groupe aussi, parce que En fait, il a signé comme en fin de juin, Brad Tree Living. Son contrat était fini le 30 juin. Je pense qu'il a signé son nouveau contrat dans la vingtaine de juin. Fait que dans un marché comme Calgary, où les journalistes en parlaient beaucoup de son avenir. Puis je pense que l'aspect négatif, c'est que ça devient... la première fois que l'équipe passe cinq matchs d'affilée, bon, est-ce que le DG va se faire congédier parce que son contrat est fini à Noël? Ça revient toute la saison. Fait que je pense pas que c'était idéal pour Reggie Living que c'est attendu tellement longtemps, mais il y avait des circonstances uniques, je pense, dans le temps. Mais alors, ça arrive. Puis des fois, ça arrive sans qu'on le sache, un certain marché où on n'a jamais annoncé les années d'un GM à Noël. Puis, je vais donner un exemple. Doug Wilson, lui, a annoncé, on n'annonce jamais ses années. Puis je sais, en fait, que c'est un fait que lui, il signe des nouveaux contrats sans que ça s'est annoncé non plus dans son marché.
Ah ouais?
Oui, d'ailleurs, à Tampa Bay, récemment, Julien Brisebois a signé un nouveau contrat, mais on n'a pas annoncé le nombre d'années.
Non.
Puis je pense pas que le Lightning voulait l'annoncer, parce que je pense que le Lightning a appris leur leçon que lorsque tout le monde savait que Steve Yzerman restait un an, ça a devenu quelque chose qu'on parlait. Est-ce que Yzerman va aller à Detroit? Est-ce qu'il va rester à Tampa? Pourquoi il n'a pas signé un nouveau contrat? Fait que c'était pas fameux, je pense, pour Jeff Finnick, le propriétaire à Tampa. Fait que maintenant,
si on savait pas le contrat de Marc Bergevin, on serait pas en train de s'en parler en ce moment, là. C'est...
Justement. Alors, je veux pas donner des idées aux Canadiens, mais parce qu'on aime pas ça comme journaliste, mais c'est peut-être une bonne idée de pas dévoiler les années de contrat pour les entraîneurs, puis le gérant.
Bon, OK, ça suffit, là, Pierre. Merci. OK. Merci de ton passage.
Je vais me faire blâmer.
On va jamais sortir ce podcast-là juste pour cette dernière phrase-là.
Ouais, mais c'est... en tout cas, tantôt, Arpin, il a touché un petit peu, mais la flexibilité de mouvement ou le niveau d'aise de Marc Bergevin de poser des gestes, réaliser des transactions, signer des joueurs durant une dernière année comme ça, je pense que ça va être un élément qui va être intéressant à suivre. Je me souviens très bien d'un certain repêchage. Je crois qu'on était à Dallas où Marc Bergevin, au cours d'une mail de presse, c'est au moment...
Le 2018,
oui. 2018. Il avait parlé à ce moment-là de dire que... Il a répété cette phrase-là à plusieurs reprises par la suite, mais qu'il allait regarder à bâtir ou à s'occuper du Canadien pour le court, le moyen et le long terme. Puis ce jour-là, ça m'avait marqué parce qu'il avait dit je veux prendre des décisions qui vont être faites en fonction même après que je ne sois plus là. Donc,
Que je sois là ou non, c'est ça qui est.
Que je sois là ou non, c'est ça exactement.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Alors, c'est comme s'il garde toujours en tête le fait que les décisions qu'il va prendre vont continuer d'avoir un impact, même quand ça va être un autre directeur général qui va être là à sa suite. Fait que je pense pas qu'il va se lancer dans des décisions particulièrement reckless là,
au cours
de cette dernière année-là.
Mais d'ailleurs, Marc-Antoine, il y a une raison très réelle pour ça, c'est qu'il y a sa prochaine job aussi.
Mmh.
Donc, ça peut que Marc Bergevin va être, mais s'il devient directeur général quelque part d'autre, il va vouloir être fier de ce qu'il a laissé à Montréal comme noyau, comme plan, même après qu'il est parti. Fait que ça, c'est important pour lui aussi, il faut le dire. Mmh. Fait que, ça peut nuire à un directeur gérant s'il vend tout dans sa dernière année parce qu'il s'en fout. Les autres
propriétaires dans l'année sont équipe. Là. Ouais, c'est ça. L'autre équipe, après, qui veut l'embaucher, va dire, mais le jour où tu vas en être à ta dernière année avec nous, vas-tu mettre le feu derrière toi comme tu viens de le faire, tu sais?
C'est ça.
Ouais.
Malgré ça, les Mets sont quand même engagés au Marmania comme directeur général après les Expos. Mais en parlant de ça aussi, c'est que, tu sais, on s'entend que, disons que la dernière année de contrat, peu importe ce qui va arriver par après, de Marc Bergevin, est compliquée. Ce serait le mot qu'on va utiliser, là. Shea Weber qui n'est pas là. Carey Price qui ne commencera pas la saison. Phil Danault qui n'est plus là. Edmondson qui n'est pas prêt. Il y a toutes sortes d'affaires qui se sont produites depuis le match 5, la finale de la Coupe Stanley quand même. On mentionne même pas leur premier choix au repêchage qui devrait peut-être faire partie de la longue liste de choses. Mm-hmm. Mais... il me semble que, tu sais, laisse faire le contrat. Marc Bergevin, le défi de Marc Bergevin cette année, étant donné les attentes que l'équipe a peut-être créées avec leur parcours en série, les attentes que tout le monde a de l'équipe, je pense que la majorité du monde ne s'attend pas à ce qu'ils soient capables de se qualifier pour les séries.
Mm-hmm.
Comment tu vois ce défi-là avec un gars qui a quand même vécu des choses à Montréal pendant ces années ici, mais cette saison, laisse le contrat de côté. C'est quoi le défi principal de Marc Bergevin, à ton avis?
Ouf! Je trouve ça difficile à répondre un peu, puis je veux faire attention avec ma réponse parce qu'il y a la vraie vie, puis il y a le hockey. Mais c'est tellement difficile à répondre sans savoir ce qui se passe avec Carey Price à long terme.
Mm-hmm.
Puis encore une fois, moi, j'espère que Carey Price prend tout le temps qu'il a besoin pour prendre soin de ce qui est vraiment important dans sa vie. Mais il faut quand même... Il faut que ça touche le côté hockey, parce que si Carey Price n'est pas là pendant, disons, à moitié d'une saison, on ne dit pas que ça va arriver. Présentement, on pense que c'est seulement un mois. Mais personne qui le sait vraiment. Puis si tu n'as pas Carey Price, disons, pour la moitié d'une saison, ça change un peu la réponse de ce que tu viens de me demander.
Ouais. non, je suis d'accord. C'est clairement quelque chose qui...
C'est vraiment dur à répondre. Puis, tu sais, l'aspect de chez Weber, c'est impossible de remplacer son leadership. Tu sais, c'était pas le même joueur sur la glace, là, on est d'accord. Mais dans le vestiaire, la façon qu'il organisait les joueurs, on a parlé souvent de l'influence de chez Weber, les speakers qu'il organisait, tu sais, c'est qu'est-ce qu'il avait à dire dans le vestiaire. Moi, je vois pas vraiment un joueur sur cette équipe-là présentement. Vous autres, vous connaissez l'équipe mieux que moi. Moi, je vois pas un gars qui peut venir proche de ce que Shea Weber faisait.
Il n'y en a pas de joueur dans la ligue qui vient. Il y a très peu de joueurs dans la ligue qui vient proche de ce que Weber peut faire hors de la glace. Là. Ça, c'est clair, mais ouais. Non,
tu sais, quand même, j'ai parlé de ça sur Overdrive, ça me passait avec les gars sur la Radio Toronto. Puis la transition qui s'en venait, anyway, de façon ou l'autre, ça, je pense que ça va être plus rapide maintenant.
Ouais.
C'est le fait que Nick Suzuki devient un jeune leader. Jake Evans, je pense qu'il y a une chance incroyable cette année. Romonov, est-ce qu'il peut devenir un défenseur de premier plan? C'est toutes des choses au bout de la ligne que le Canadien voulait d'une façon ou l'autre, mais ça se peut bien qu'il y ait une meilleure chance que ça arrive maintenant sans conséquence. Mm-hmm. Le Canadien perd 3 matchs d'affilée ou non, je pense qu'on va vouloir peut-être souligner cet aspect-là de l'organisation au lieu, parce que quoi d'autre que tu vas faire cette année?
Tu sais, tu as mentionné le nom de Carey Price tout à l'heure, puis c'est peut-être on peut peut-être utiliser ça comme transition pour passer de Bergevin au dossier de Carey Price, mais avec Shea Weber qui n'est plus là, Price, dont le statut est un petit peu en flottement, Bergevin qui potentiellement s'en va, on dirait que c'est la fin d'une époque qui s'annonce un peu. Là,
mm-hmm.
Est-ce que crois-tu que, étant donné que Bergevin a tellement toujours utilisé Weber et Price comme étant les deux pierres d'assises de son équipe, qui lui, c'était clair dans sa tête qu'il allait vivre et mourir avec ces deux gars-là, que si on se retrouve avec un autre directeur général à Montréal la saison prochaine, le cas de Carey Price pourrait être abordé complètement différemment de la façon dont il a été sous Bergevin, c'est-à-dire de dire « c'est mon homme, on reste avec lui, puis on gérera ses hauts et ses bas, on gérera son contrat comme ça vient, mais il est avec nous pour rester. » Penses-tu que ça peut changer avec un autre client?
Moi, c'est un mot du bon point, Marc-Antoine. T'sais, que je te dirais, moi, sur Carey Price, c'est que souvent, je pense que durant les années, quand ça allait moins bien pour lui, on se demandait, tu sais, pourrait-il se faire échanger, etc. Une des choses que j'essaie toujours de souligner, c'est que c'est pas le Canadien qui décide ça, c'est Carey Price.
Ouais.
Fait que, comme d'ailleurs, il l'a fait avec Seattle, repêchage d'expansion, c'est lui qui est allé à Marc Bergevin et il a dit, hey, j'ai une idée, moi. Même moi, dans le repêchage au lieu de Jake Allen, c'est Carey Price qui va décider son avenir du côté hockey à cause de sa clause de non-échange, etc. Fait que, je comprends ta question. C'est sûr que s'il y a un nouveau directeur général l'année prochaine, il va vouloir en parler avec Carey Price, mais la réalité, c'est Carey Price. C'est lui et son agent Jerry Johansson qui décident comment ça se déroule avec ses quatre dernières saisons sur son contrat.
Mais moi, tu sais, dans le dossier Carey Price, la façon que je préfère voir ça, c'est que, tu sais, c'est un peu comme on apprend après la fin des séries, tu sais, comme on a appris avec Shea Weber. Tu sais, on a appris que, il y avait telle blessure. Waouh, il a tellement joué bien malgré ces blessures-là. Quand il revient en santé, il va être encore meilleur. Carey Price, qui sait combien de temps il traîne ces affaires-là qu'il est en train de régler en ce moment? Tu sais, qui sait à quel point ça aurait pu... Tu sais, on s'entend qu'il n'aurait pas pu performer mieux qu'il l'a fait en série l'année passée. Mais je pense que ses difficultés en saison régulière dans les dernières années, je ne sais pas. Tout ce que je dis, c'est que quand Carey Price revient, peu importe c'est quand, on doit espérer... Et moi, entre moi, je l'espère personnellement, puis je pense que tout le monde l'espère, que quand il revient, il serait en santé, mentalement. Qu'il serait redevenu meilleur dans sa tête, il va être plus confortable, quoi que ce soit. Et qui sait quel impact ça pourrait avoir sur Carey Price, le gardien, on ne sait pas encore. C'est comme, ça, c'est quelque chose que, depuis l'annonce, que j'y pense souvent, tu sais, quand tu sais, on l'a déjà entendu, hein, Carey Price, tu sais, tu te rappelles, il y avait un match contre les Sabres de Buffalo il y a 2 ou 3 ans. Il était particulièrement mauvais. Il a donné un mauvais but en prolongation contre Rasmus Ristolainen. Puis après le match, il est sorti dans le vestiaire puis il a dit « Tout se trouve entre les oreilles. »
It's all upstairs.
Puis, it's all upstairs. It's all between the ears. Puis il a pris un petit break. C'était qui le gardien numéro 2? C'était Antti Niemi, je pense, à l'époque. Il y a eu quelques départs de suite. Il y a eu du temps à travailler avec Stéphane Waite. Puis j'ai pensé à ça dans les derniers jours là, depuis. Puis, tu sais, c'est comme il l'a dit. Il a dit « It's all upstairs ». C'est comme, sans qu'on voulait l'entendre peut-être, ou sans qu'on voulait le comprendre de la bonne façon, il a déjà mentionné à quel point la mentale, dans son cas, l'affectait sur la glace, puis vice-versa, peut-être, on ne sait pas. Mm-hmm. Mais Carey Price en santé, s'il est capable de vraiment en parler, puis régler ce qu'il y a à régler, puis j'ai aucune idée c'est quoi. Ça pourrait être un petit game changer pour lui aussi. Là. Je pense que c'est ça un aspect qu'on n'en parle pas beaucoup aussi, là, c'est de voir quelle influence ça aurait pu avoir dans les 2 ou 3 dernières années dans son cas.
Moi, je trouve une chose que ben, peut-être que vous en avez parlé plus que moi, parce que ma vie, c'est pas tout le Canadien, là, mais quand Carey Price a signé son nouveau contrat il y a plusieurs années, moi j'ai été surpris qu'il n'y ait pas eu plus de conversations parmi nous autres, parmi les journalistes. Il y a pas personne, on dirait, qui t'a surpris qu'il avait signé. Puis moi, je dois dire que je n'étais pas 100% à moi que c'était un slam dunk. Puis la seule raison que je pense à ça, c'est que ça se voit là qu'il y a des fois la pression d'être le gardien de Montréal, la pression d'être la franchise, de tout faire pour cette équipe-là. Je me demandais déjà à ce point-là, est-ce qu'il veut changer de marché ou aller quelque part où il y a, où c'est différent, où le monde est plus laissé tranquille. Puis évidemment, c'était pas le cas. Il a signé son contrat. Puis, tu sais, je veux pas entendre des gens qui disent, ben oui, mais 10,5 millions, c'est sûr qu'il va signer. 10,5 millions, il peut l'avoir sur 10 autres équipes. Ça n'a rien à faire avec ça.
Ben, l'argent était là pour Carey Price. Sûrement, là.
Ouais, meilleur gardien de son époque. Mais il a décidé de rester. Puis j'ai trouvé ça, moi, personnellement, quelque chose qu'on n'a pas beaucoup discuté. C'est quasiment étrange d'en parler, là. Mais, tu sais, ça a juste arrivé que tout le monde a dit, OK. Il reste à Montréal, mais j'ai trouvé intéressant que on dirait qu'il n'y a quasiment pas eu de doute quand il l'a fait.
Ben même non, là, il l'a dit après qu'il n'a pas été réclamé par Seattle, il a dit bon, mais là, je peux terminer ma carrière à Montréal. Puis il avait l'air bien content aussi, là.
Je pense qu'il y a un niveau d'engagement aussi à l'égard d'un sentiment de responsabilité à l'égard de cette équipe-là qui il l'a jamais. Tu sais, il l'a exprimé de temps en temps, mais jamais avec beaucoup de mots parce que c'est Carey Price. Mais tu sais, il ne s'est jamais défilé par rapport à l'importance de sa responsabilité de dire, OK, tu sais, durant les années là, 2014, 2015, 2016, où tout vraiment reposait sur, puis même avant, tout reposait sur lui, tu sais, aussi loin que Carey Price allait aller, le reste de l'équipe allait aller, puis c'était lui le premier facteur de succès de cette équipe-là. Mais il ne s'est jamais plaint de dire, hey, ce serait le fun, tu sais, que je sois. C'est que je sois mieux entouré. Lui, c'était comme, c'est correct, c'est ce que je connais, je le vis bien. Et il a toujours accepté cette pression-là. Puis rappelez-vous qu'en finale de la Coupe Stanley, quand le Canadien a perdu face au Lightning de Tampa Bay, il s'est fait poser la question à savoir qu'est-ce qui a été, selon toi, Carey, l'élément qui a fait la différence dans cette série-là. Puis il dit « J'ai pas été à la hauteur dans les premiers matchs de la série. » Fait que, au total de son... quand il regarde ses performances, lui, il se dit « Je suis pas assez proche. Mon rêve, c'est de gagner la Coupe Stanley. Je veux gagner la Coupe Stanley à Montréal. Mais en bout de ligne, pourquoi on n'a pas gagné? Parce que moi, j'ai pas été assez bon. » Ben, c'est très dur envers lui-même, mais je pense que le sentiment de responsabilité qu'il nourrit à l'égard de l'équipe puis de la fonction qu'il se voit occuper avec cette équipe-là, je pense que c'est tout ça qui fait en sorte que ça allait autant de soi qu'il signe avec le Canadien, parce que tout ce temps-là, il a dû se dire « It's unfinished business ».
Ils ont perdu la finale probablement parce qu'ils ont vécu... Le Canadien a joué contre un gardien qui s'appelait Carey Priceleski, moi je l'appelle des fois. La version russe, puis 10 ans plus jeune, il n'y en a pas vraiment des Carey Price ou des Andrei Vasilevsky, mais c'est la version plus jeune. Et moi, une chose qui m'a toujours resté avec moi, je me rappelle une fois, il y a plusieurs années, je travaillais encore pour ESPN, puis j'ai fait un texte avec Carey Price, mais je me suis assis avec dans le vestiaire. Puis, c'est une entrevue très normale. Et durant l'entrevue, je pense que j'avais demandé quelque chose comme, tu sais, y a-t-il des choses étranges qui arrivent quand t'es Carey Price puis t'es gardien du Canadien de Montréal? Puis, il a été chercher des lettres dans son, je sais pas où, là, puis il est revenu, puis s'est assis avec moi, puis il montrait que il y a des gens au Québec qui l'ont invité à leur mariage. Puis, il y en avait 5-6, là. Could you come to my wedding? Could you come to my wedding? Des étrangers complètement. Puis on a ri les deux, là. Puis il a vraiment ri avec moi, là. Gros sourire. Puis il trouvait ça drôle. Puis il gardait, dedans, il trouvait ça drôle.
Ouais.
Mais quand les années ont comme défilé, je pense souvent à ça. Puis tu sais, je me dis, c'est tellement un exemple, peut-être que c'est un gars tellement privé, Carey Price. Tu sais, les gens l'invitaient à leur mariage. Puis je sais qu'il est capable de rire de ça, mais je pense aussi que ça souligne qu'est-ce que les gens au Québec pensent de lui. Sa responsabilité pour les partisans. Il est tellement important dans leur vie. Puis ça vient qu'une pression, ça.
Puis, mais parce qu'il le comprend tellement bien, tu sais, c'est quelque chose que tu veux pas. Tu sais, quand il a bâti les records de concession de Jacques Plante, tu sais, c'est venu le chercher, là. L'histoire du Canadien de Montréal, puis sa place dans cette histoire-là, il veut pas trop en parler parce qu'il joue, il est encore un joueur, il aime pas ça parler de tous ses accomplissements pendant qu'il joue, puis il dit un jour, quand j'ai arrêté de jouer, je vais aimer ça, mais le record de victoire de Jacques Plante, tu voyais que c'était un peu différent, là. Il était capable d'apprécier à quel point c'était gros, puis je pense que c'est l'historique de cette équipe-là, puis la responsabilité que lui il sent pour que la Coupe Stanley revienne à Montréal un jour, il l'a senti depuis longtemps, depuis bien avant d'avoir signé ce contrat-là, mais je pense qu'en signant ce contrat-là, c'était ça l'engagement qu'il faisait, là. Puis il en a parlé, c'est... Il était assez franc, en fait, avec moi quand j'ai allé le voir à Kelowna il y a une couple d'années. C'était comme, c'est ça que je veux. Là. Je veux rien entendre d'un rebuild ou quoi que ce soit. T'sais. J'aime bien les espoirs, mais les espoirs ne veulent rien dire tant qu'ils ne sont pas arrivés à Montréal. Pour moi, c'est maintenant. Il faut que ça se passe maintenant. Puis là, quand tu regardes, t'sais, avec tout le monde qui parle, qui fait référence à Shea Weber dans le passé, même Marc Bergevin l'autre jour a dit que l'héritage que Shea Weber a laissé avec ses coéquipiers, tu sais, que c'est vraiment quelque chose que Brendan Gallagher en parle comme si c'est dans le passé. Moi, je me mets à la place de Carey Price dans cette situation, puis j'ai de la misère à voir comment il peut se rendre à ce but-là dans la situation actuelle et dans sa situation à lui actuelle. C'est pour ça que quand on parle du fait que qu'est-ce qui va arriver avec Carey Price avec un nouveau directeur général, peut-être que lui aussi, ça lui tenterait de peut-être aller voir ailleurs, ben, puis voir quelque chose d'autre, puis vivre quelque chose d'autre, parce que on a tout le monde a vu à quel point lui... Qu'est-ce que lui veut dire à Marc Bergevin, on l'a vu, puis je pense que c'est quand même assez... C'est les deux qui sentent ça. Alors, je sais pas si jamais il y a un autre DG, puis si la saison du Canadien va comme tout le monde est en train de peut-être prévoir maintenant, peut-être que lui aussi, ça est en train de changer d'air un peu.
Je veux pas lui prêter des intentions ou croire, tu sais, ou interpréter des choses qui nous échappent au sujet de Carey Price, mais est-ce que l'idée m'est traversée l'esprit au cours des derniers jours. Est-ce que c'est possible que cette fameuse proposition à l'occasion du repêchage d'expansion, de soumettre l'idée aux Canadiens de dire, ben, voyez, exposez-moi pour le repêchage. Est-ce que lui, ça aurait pu être une façon de trouver une sortie, une porte de sortie possible pour se retrouver dans un marché qui était proche de chez de la famille de son épouse, puis sortir d'une. Un peu d'une situation qui autrement serait sans issue.
Une sortie honorable,
parce que dans le fond, c'est d'essayer. Mm-hmm. C'est une façon de dire je vais essayer, je ne pense pas que je vais me faire réclamer. De cette manière-là, on rend service à l'équipe, on va retrouver le même tandem la saison prochaine, mais en même temps, il ne se place pas dans une position où, s'il veut sortir de Montréal, il irait dire à l'équipe ben là, échangez-moi. Il aurait pas l'air d'un gars qui veut laisser tomber l'équipe. Je pense que ça, c'est la dernière chose qu'il voudrait faire. Mais je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'il n'y avait pas un... Ça se pourrait-tu qu'il y ait eu un signal, là? T'sais? Je ne sais pas.
On ne le sait pas. Puis, tu sais, je veux faire attention parce qu'on ne sait vraiment pas. Puis, c'est encore une fois, on parle de la vraie vie et non de l'hockey. On parle de ce que Carey Price est en train de vivre maintenant. Mais au moins sur le côté hockey, je peux dire que c'est intéressant que je sais, quand j'ai parlé avec son agent, que c'est important pour Carey que Jake Allen soit là pour commencer la saison. Sur le côté hockey.
Mm-hmm.
Moi, je pense que ça avait plus à faire, évidemment, avec le fait que Carey savait qu'il s'en allait à New York voir un spécialiste, puis il n'était pas sûr là, avec ta chirurgie, comment longtemps que tu pourrais être. Je pense que ça vient de là, l'idée de faire sûr que le Canada était protégé que Jake Allen. Mais c'est intéressant, là, quand on regarde ce qui s'est passé maintenant, c'est vraiment incroyable comme conséquence qu'on a protégé Jake Allen chez le Canadien.
Ouais, quand même.
Parce que tu dis que ça en allait à Seattle.
Ouais, je pense que ça fait, depuis qu'il est arrivé, je pense que, en tout cas, moi, il y en a plusieurs qui pensaient que, ils ont le gars qui vont perdre à Seattle, c'est réglé, ouais. C'est fait, that's it, that's all, puis... Finalement, non.
Je peux dire une chose, Arpin. Je crois que si Carey Price n'appelle jamais à Marc Bergevin pour lui donner l'idée, moi, selon mes informations, je pense que le Canadien est sans oser parler au sujet de Jake Allen avant la date limite pour le repêchage d'expansion. Moi, j'ai l'impression que le Canadien était pour échanger Jake Allen au lieu de le perdre pour rien à Seattle.
OK. Ouais. Non, ça a du sens aussi. Là. Puis. Je pense que Jake Allen était prêt à ça aussi. Mais écoute, pour changer de sujet, pour le dernier sujet qu'on va aborder avec toi, c'est un peu... c'est de faire un petit survol de la section Atlantique. Tu sais, on s'entend, on connaît ce qui se passe avec le Canadien, mais je pense que tout le monde regarde autour du Canadien puis voit quand même un passage assez difficile aux séries éliminatoires. J'aimerais ça qu'on parle un peu de scénario dans la division. Tu sais, c'est comme Canadien, force, faiblesse, je pense qu'on en a parlé beaucoup, puis on va en parler dans les semaines à venir. Mais à ton avis, tout le monde s'entend pour dire que Tampa Bay, Toronto, probablement peut-être la Floride, peut-être Boston, sont là. Canadiens, ils sont probablement derrière eux. C'est quoi le chemin possible, à ton avis? Si jamais le Canadien était pour qualifier pour les séries, c'est quoi le chemin possible que tu vois dans cette division-là pour eux?
Il y a des chemins, évidemment. Écoute, la Floride, je pense qu'ils se sont donnés beaucoup, mais c'est quand même une équipe, moi, je pense qu'il doit prouver beaucoup. Premièrement, Bobrovsky, s'il y a de la misère encore, est-ce qu'on est rassuré que Spencer Knight est prêt à être un gardien numéro un à son âge? Alors, il y a quand même des questions avec la Floride. Tampa Bay ont perdu leur troisième ligne, la troisième ligne qui a battu le Canadien en finale de la Coupe Stanley. C'est quand même quelque chose. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Lightning ont beaucoup de talent, mais ils ont quand même perdu la ligne qui a gagné la Coupe en finale. C'est dur de gagner trois Coupes d'affilée, mais c'est sûr qu'ils vont faire les séries. Toronto, je suis basé à Toronto, puis ça me surprendrait pas si les Leafs gagnent 60 matchs. Mais de l'autre côté, la pression sur cette équipe avec ce qui s'est passé encore une fois en première ronde. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça se ressent. La conférence de presse de Carl Dubus, j'étais là au début du camp d'entraînement. Tout le monde est tête avec cette équipe-là. Alors, ça va être intéressant de voir si l'équipe, ça commence pas comme faut pour les Leafs, comment que cette équipe réagit. Alors, tu sais, jamais qu'eux autres, mais moi, je pense qu'ils vont connaître une bonne saison régulière. Après ça, ben, je suis pas prêt à prédire les séries qu'eux autres. Boston, c'est une équipe qui se rajeunit pas vraiment. Alors, c'est intéressant qu'eux autres, la fenêtre est encore ouverte. Mais comment ouverte est la fenêtre pour Boston? Tu sais, jamais qu'eux autres. Moi, je pensais l'année passée que Boston était pour faire du recul. Puis ils m'ont surpris. Fait que, bon, j'ai mentionné des exemples, mais il y a quand même des questions avec toutes ces équipes dont on pense qu'ils vont être meilleurs que le Canadien, mais c'est quand même pas à 100%.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi concernant les Maple Leafs, à savoir que c'est une équipe qui a des points d'interrogation en arrivant en séries éliminatoires. Mais en saison régulière, tu sais, c'est comme pour reprendre la fameuse phrase de Marc Bergevin, tu as des joueurs qui t'amènent en série, puis tu as des joueurs qui t'aident à traverser les séries. Mais jusqu'à preuve du contraire, les Leafs ont beaucoup de joueurs pour t'amener en série. Puis ça, je pense que ça va continuer à être une équipe qui va générer énormément de victoires, énormément de buts en saison régulière, puis ils vont être là. Qu'est-ce qu'ils vont faire une fois rendus en série? Ça, c'est une autre affaire. Mais moi, je crois que s'il y a un passage possible pour le Canadien, c'est davantage du côté soit de Boston ou de la Floride. Mm-hmm. Boston, c'est la ligne de centre. Écoute, tant qu'ils vont avoir ce fameux trio-là avec Patrice Bergeron, Pasternak et puis Marchand, quand tu as ce trio-là pour te traîner en avant, tu es assez bien équipé. Mais la ligne de centre après, c'est pas très différent de Montréal dans la mesure où tu as plusieurs.
C'est quoi cool, le deuxième centre, là?
Ouais. Ben, c'est des gars qui sont tous un peu plus à l'aise comme ailier que comme joueur de centre. Alors, ils ont quand même un bassin de talent intéressant, mais c'est un petit peu interchangeable. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de relativement très solide. Devant le filet aussi, ça va être intéressant de voir parce que d'un côté, tu as Linus Ullmark qu'ils ont signé quand même à gros prix. Puis tu as la recrue Jeremy Swayman.
Mm-hmm.
Lequel des deux va être un numéro un? Est-ce qu'il y en a un des deux qui va pouvoir te donner une job équivalente à celle qu'a fait Tuukka Rask durant plusieurs années? Mm-hmm. Tu sais, c'est là aussi, il y a un petit peu un changement de la garde qui me donne à croire que commence à être un peu plus vulnérable qu'il l'était auparavant.
Non, je suis d'accord avec ça. Puis, écoute, tellement de respect pour Don Sweeney, gérant Boston, parce que les Bruins ont comme fait le reset sans manquer série durant une époque. Ils ont vraiment changé beaucoup de l'équipe. Mais à la fin de la journée, c'est quand même sans Tuukka Rask, sans David Krejci. Là, on commence à perdre des morceaux à Boston. Là. Puis Patrice Bergeron, c'est un joueur tellement spécial. Écoute, je pense qu'on l'adore tout, mais une autre année. Tu sais, pour lui, puis alors, tu sais, je suis pas convaincu que les Bruins, c'est 100%, que c'est encore une des meilleures équipes dans la ligue.
Non,
c'est ça. Oui, non, je suis d'accord. Puis, tu sais, moi, à mon avis, en termes de la division, tu sais, je pense honnêtement que le Canadien va avoir beaucoup de misère à faire ici. Il y a tellement de choses qui doivent bien aller pour le Canadien. Il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, et toutes ces questions-là doivent s'aligner. Ça doit aller du bon bord. Puis il y en a plusieurs. Il y en a comme 4, 5, 6 peut-être même. Mm-hmm. Mais à ce point-là, tu sais, t'as le duo Nick Suzuki-Cole Caulfield, ici. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont bâtis sur ces deux gars-là. Les affiches de ton employeur RDS autour de la ville là, sont toutes avec une photo de Nick Suzuki et Cole Caulfield dessus pour faire promotion de la saison qui s'en vient. Alors...
Ben, il peut pas mettre Philippe Danault, quand même.
Non, ben, c'est ça. Mais non, mais il y avait quand même, tu sais, avant la semaine dernière, il y avait quand même Carey Price qui était là. Il y avait du monde qui aurait pu choisir, mais c'est juste, ça reflète la réalité de cette équipe-là, que parmi la plupart des partisans aussi, que c'est ces deux gars-là qui vont... Mais il me semble que...
L'espoir vient d'eux, tu sais.
L'espoir vient d'eux, mais c'est quand même beaucoup à mettre sur leur dos, tu sais. C'est comme je trouve... C'est Cole Caulfield... Il y a eu des bonnes séries éliminatoires. C'est un candidat légitime pour le trophée Calder cette année. Mais il n'y a encore rien fait dans cette ligue-là. Là. Honnêtement, là, ça reste à voir comment il va passer d'un calendrier de une quarantaine de matchs, même une trentaine de matchs à l'université, à un calendrier de 82. Mm-hmm. Et Nick Suzuki, c'est un peu la même chose, mais toi, quand tu les regardes, ce qui me frappe de Nick Suzuki, c'est qu'il y a tellement d'autres joueurs qui le voit jouer, puis dit « Wow, lui est spécial, lui est bon. » Et moi, j'ai mes idées de pourquoi il trouve ça, mais toi, je sais que peut-être tu l'as pas vu live très souvent dernièrement, mais toi, quand tu penses à Nick Suzuki, tu penses quoi?
Moi, je pense à un joueur qui continue de surprendre parce que je me rappelle au mois de mars dernier, j'en avais parlé à TSN durant les matchs du Canadien en studio que Suzuki avait connu une séquence de 2-3 semaines où ça commençait vraiment à ralentir, puis il avait de la fatigue, puis on en mettait trop sur son assiette. Puis je me demandais, tu sais, c'est ça, sa deuxième saison dans la Ligue. Je me demandais, tu sais, est-ce que c'est un peu trop là, qu'est-ce qu'on lui met pour lui? Et puis, mais il a tourné le coin. Il a connu des séries exceptionnelles. Il a fini la saison comme faut. Puis je me rappelle, à moi, j'ai dit, ce gars-là, à chaque fois que tu penses avoir des doutes, il démontre beaucoup. Fait que moi, Nick Suzuki, je crois beaucoup en lui. Moi, les deux jeunes joueurs, je pense qu'ils pourraient vraiment répondre à la question quasiment en plus, parce que je pense que Caulfield et Suzuki vont faire ce qu'ils doivent faire offensivement. Moi, Jake Evans et Romanov, c'est les deux joueurs, pour moi, qui ont des opportunités vraiment incroyables cette année. Forcément, quand même, là, mais c'est Jake Evans, tu sais, qui remplace vraiment Cole Kaniemi, puis Romanov, il doit devenir un top four où le Canadien a une chance d'essayer en groupe de jouer défensivement. Peut-être ça leur donne la chance de mettre Ben Charrot sur la troisième vague. Si Romanov et Jake Evans prennent des étapes de même, moi, je pense que ça change vraiment la complexion de la saison pour le Canadien. Mais si c'est plus, tu sais, un peu là, un peu ici, tu sais, des jeunes joueurs qui doivent, tu sais, qui doivent prendre l'apprentissage, ben ça va faire mal. Parce que si Romanov, c'est un gars qui a emmené du charme, n'est pas capable de faire complètement confiance avec lui, et de la même façon, si ça a l'air d'être un peu trop pour Jake Evans, là, il y a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre option.
Moi, je pense que Jake Evans, ils vont être corrects. Il y a, tu sais, une partie de l'équation dans le cas d'Evans, c'est aussi Christian Dvorak. Je pense que il y a, tu sais, ça demeure, c'est quand même Dvorak qui est le centre du deuxième trio. Je pense que Evans, il va être correct. Dans le cas de Romanov, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que, écoute, il n'y a pas. Il n'inspirait pas suffisamment confiance par son jeu en fin de saison régulière pour jouer en série.
Mm-hmm.
Alors, de passer d'un gars qui ne jouait pas en séries éliminatoires à un gars sur, qu'on espère devenir un top 4, ça va prendre une transformation rapide qu'on n'a pas vu durant le camp d'entraînement. On ne sent pas qu'il y a eu un déclic chez Romanov qui fait que, wow, il est un joueur différent de la saison dernière. Ça va être un processus pour l'amener là. Mais encore là, les matchs pré-saison, le premier quart de la saison, c'est un niveau de hockey qui n'est pas le même que quand on va être rendu au mois de février, mois de mars. Alors, est-ce que Romanov va avoir été capable non seulement de reprendre sa courbe de développement, d'arriver justement en fin de saison régulière, puis d'être devenu entre-temps ce top 4-là qui, entre autres, pourrait encourager le Canadien à dire « On est suffisamment à l'aise avec Romanov pour qu'on n'ait pas besoin de re-signer Ben Sherratt. » Puis qu'on libère cet argent-là pour autre chose. Puis qu'on est à gauche, à compter de la saison 22-23, qu'on est Edmondson, Romanov, Gouley, puis on est correct du côté gauche, puis l'argent, le 4 millions qu'on aurait donné à Sherrod, on peut l'investir ailleurs. Je pense que si Romanov était réussi à s'améliorer suffisamment puis à montrer que, qu'il remplit toutes les attentes, ça simplifierait bien des affaires, mais sauf que son point de départ cet automne m'inquiète un petit peu quant à ses chances de réussir ça en l'espace seulement d'un an.
Et puis d'ailleurs, le Canadien doit probablement savoir la réponse à cette question aussi. S'ils ne sont pas dans une position dans les séries, puis écoute, ils pourraient l'être le mois de février. En fait, on dit toujours février, mais la date limite des transactions est en fait le 21 mars. Il va falloir s'habituer. mais si le Canadien n'est pas dans une position dans les séries, il va falloir savoir la réponse à cette question par ce point-là, parce que Ben Charrot va être un défenseur qui va être populaire parmi les équipes qui s'en vont des séries.
Non, c'est certain.
Il faut savoir la réponse.
Ouais. Non, il y a une choix de deuxième ronde à aller chercher là au, je pense que c'est quand même assez évident là, que si Ben Charrot se retrouve sur le marché des échanges en mois de mars, comme tu dis, c'est sûr, un choix de deuxième ronde devrait venir en retour, particulièrement après les deux dernières séries, comment les autres équipes ont vu comment Ben Sherratt est capable de jouer du hockey des séries. Tu sais, c'est comme, je pense à une équipe comme Toronto, par exemple, qui pourrait, qui pourraient peut-être l'aimer beaucoup si on de l'espace salarial, évidemment. Et juste pour terminer, pour boucler la boucle un peu, je pense que c'est là le défi de Marc Bergevin. Tout ce qu'on vient de dire, là, Jake Evans, Romanov, le bas de la formation. T'sais, même lundi, on a vu Adam Brooks qui était réclamé au ballottage parce que Ryan Poehling a pas vraiment, il a pas pu prendre l'opportunité qui a été donnée pendant la pré-saison. Il y a Cédric Paquette qui est là sur le quatrième trio en ce moment. T'sais, il y a toutes sortes de... Le Canadien a toujours été bâti pour pas mal de le remporter avec leur profondeur. Et en ce moment, à la fin du camp d'entraînement, je trouve que la profondeur fait un peu défaut. T'sais, vu que Romanov n'a pas eu un bon camp, il se retrouve sur un troisième duo avec Chris Weidman à sa droite. C'est pas exactement la meilleure répartition des forces sur la défense, si tu veux, mais il faut faire avec ce que les joueurs ont décidé de faire. Alors, je pense que... Et c'est un peu ça où Marc Bergevin est bon. Je dis pas qu'il est pas bon ailleurs, mais une chose qu'il fait bien, c'est d'aller trouver des joueurs sur le marché des échanges que personne en parle, puis de l'amener ici, puis de le mettre dans un rôle qui est peut-être un peu plus spécifique, mais un peu plus effacé, un peu moins de premier plan, puis les voir épanouir. Alors, je pense que c'est pas mal ça, le défi en ce moment de Marc Bergevin, c'est d'aller renforcer le bas de l'alignement du Canadien.
Ouais. D'ailleurs, on donne du crédit aussi pour l'échange de Dvorak, parce qu'il y a bien des choses qui se passaient cette semaine-là avec la hostile sur Kotkaniemi, puis d'aller chercher Dvorak quand tu sais que toute la ligue te regarde, puis ils savent que t'es coincé. Puis on sait que les négociations avec les Coyotes remontent au repêchage, parce que le Canadien pensait déjà remplacer Dano. Mais c'est quand même le fait qu'il était capable d'aller chercher dans un moment où il y avait beaucoup de pression. Fait que c'était une belle chance de Dvorak. Mais je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes la formation, puis tu sais, Ryan Poehling, ça fait mal aux Canadiens, puis ça peut être un gros camp parce que c'était. Fallait vraiment. Puis écoute, il peut encore le faire. Moi, je dis toujours, les gars, le monde sont tellement excités de la première formation, de la première semaine de la saison. Puis on en lit beaucoup là-dedans. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes au début de la saison de la formation, puis tu regardes le début des séries, les équipes qui font les séries, à peu près 8 noms qui sont différents. Il y a beaucoup de changements qui arrivent avec les gars qui remontent, les gars qui se font échanger, les blessures. Pas fin du monde pour Poehling, mais ça fait mal à l'organisation, je pense, qu'il n'y a pas eu un gros camp. Parce que ça, c'est un gars qui devait être prêt, je pense.
Moi, écoute, à la fin du dernier match préparatoire, Poehling en a joué 5 sur 6. Il s'est fait puis Dominique Ducharme s'est fait poser la question à savoir comment tu as trouvé le dernier match de Poehling? Correct. Puis, tu sais, juste un correct. Ça, là, le ton de voix sur que Ducharme a utilisé, ça voulait tout dire. La déception dont tu parles est là. C'est de dire, là, écoute, le kid, come on, là, on attend, tu sais, on attendait que tu step up, on t'a donné 5 chances, là. Puis, correct. C'est comme, fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, Poehling va probablement, vraisemblablement, commencer la saison à Laval. Il va falloir qu'il se rebâtisse, qu'il montre, tu sais, il a été capable de très, très bien finir la saison à Laval la saison dernière. Mais là, c'est de retrouver comme un niveau supérieur, un bon rythme. Puis là, quand un mojo, c'est ça. Puis à un moment donné, rendu au mois de novembre, mois de décembre, il est rappelé le Canadien X nombre de blessures, quoi que ce soit, une ouverture pour lui. Et là, peut-être qu'il pourrait la saisir, mais là, il a parti son véhicule. Là, on lui demandait d'arriver en quatrième vitesse, puis il ne s'est pas rendu assez vite. Peut-être que là, si le moteur part, puis qu'on est rendu au tiers de la saison, puis là, il est envolé, peut-être que là, il va être enfin en mesure d'amener des services qu'on attend de lui. Mais c'est sûr que pour les Canadiens, c'est une déception.
Mais ça se peut-tu que Poehling, j'ai demandé la question l'autre soir durant un match à TSM du Canadien, puis je n'avais pas la réponse, mais je le demandais. Ça se peut-tu que Poehling, c'est un gars, des fois, tu vois des gars de même, qui doit jouer avec des joueurs avec un peu plus de talent offensif pour que son talent sorte. Et puis le malheureux pour lui, c'est que ça n'arrivera pas au début de sa carrière, c'est à Montréal. Mais il y a des gars, des fois, qui sont meilleurs dans une deuxième ou troisième ligne qui peuvent l'être sur une quatrième ligne.
Mais sais-tu quoi? Dans son cas, il aurait pu l'avoir s'il avait connu un meilleur camp. Parce que je pense que dans un monde idéal, ce que Dominique Ducharme aimerait avoir, c'est Jake Evans sur un quatrième trio. Jake Evans, qui peut être un gars qui est utilisé dans des situations très spécifiques, défensives, des match-ups. Ça ne veut pas dire qu'il jouera très peu sur une quatrième trio. C'est juste qu'il y a une certaine... Ouais, c'est ça. C'était juste un rôle défini que Ducharme avait identifié plutôt dans le camp d'entraînement. et que si Poehling aurait eu un meilleur camp, c'est très possible que c'est lui qui se retrouvait avec Joel Armia et Brendan Gallagher aujourd'hui, là, mais ça aurait été une possibilité. Mais la façon dont il a abordé le camp, puis la façon dont ça, il a évolué au cours du camp, a jamais donné raison à Dominique Ducharme de même essayer ça. Mais s'il avait connu un meilleur camp, ça se peut, effectivement, parce que je pense pas que c'est fou ton idée qu'il y a besoin des joueurs de talent pour que sa propre talent ressort, parce que lui, ce qu'il fait bien quand il va bien, c'est récupération de rondelles, le jeu le long des bandes, de s'installer devant le filet. Alors, pour faire ça, tu as besoin des gars à qui tu peux refiler rondelles, puis après ça, aller te positionner, puis bien faire, ou de compléter leur jeu. C'est un gars, je pense, qui est comme ça, mais il faut que tu mérites cette opportunité-là, puis il l'a pas fait.
Tu sais, je ne mets pas à ce niveau-là, là, je vais faire attention les gens qui écoutent. Mais je donne un exemple. William Karlsson a toujours été un gars de quatrième ligne quasiment avant qu'il se retrouve à Vegas et que tu as repêché les expansions. Puis tout à coup, il se trouve sa première ligne. Puis là, ouais, ça explose. Tu sais, je dis pas que ça n'aurait pas arrivé. Là. Je pense qu'il était à Columbus, William Karlsson, avant ça.
Ouais.
Mais il n'a pas vraiment jamais eu la chance. C'est un peu étrange. Hein. Peut-être que Tortorella ne le voyait pas dans lui ou je sais pas. Là. Mais je veux juste dire que des fois, ça arrive de même. C'est étrange. Tu sais, est-ce que Jared McCann va connaître une grosse saison avec Seattle? Il est rendu sa première ligne à Seattle maintenant.
Ça, c'est, mm-hmm, c'est un très bon exemple. Peut-être que Poehling va l'avoir plus tard dans l'année, cette occasion-là. Si jamais le Canadien reste en santé, en milieu de saison, là, évidemment, c'est pas qu'il n'y ait jamais de blessé dans une ligne dans un groupe d'attaquants, c'est rare. Mais si on se retrouve dans une situation où, avec Hoffman qui est revenu, et on ajoutons à cela peut-être éventuellement le retour de Paul Byron, bien, Poehling pourrait, à Montréal, se retrouver à un moment donné entouré de Armia, entouré de Lekkonen, entouré de Hoffman. Mm-hmm. Tu sais, des gars de même qui fait que... Tu sais, t'as beau dire que c'est pas des stars, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est tous des gars qui sont meilleurs que lui. Alors, ouais, tu sais, ce sera pas comme si on lui demanderait de jouer sa quatrième ligne avec Paquette puis Belzil. Tu sais, c'est, ouais, c'est notre... Ce serait avec des gars plus aguerris. Fait que peut-être qu'il va avoir cette chance-là plus tard si le Canadien réussit à garder la santé. Mais moi, je voulais juste revenir rapidement sur un point que tu disais, Arpin, par rapport à la profondeur de l'équipe. Tu sais, on a entendu dans les derniers mois que le Canadien allait devoir remplacer Shea Weber par comité, puis qu'ils allaient devoir, ouais, remplacer Philippe Danault par comité. Mais si tu n'as pas la profondeur que tu espérais avoir, ben là, tes comités là, sont moins gros. Il manque de monde pour former tes comités. Parce que, ouais, l'idée d'un comité, c'est justement le fait que, étant donné que tu n'as pas du talent de pointe, tu le remplaces au moins par des combinaisons de talents, des combinaisons de gars. Mais sauf que c'est là où tu demandes à ta profondeur de rentrer, vraiment de servir la cause de l'équipe. Puis c'est ce qu'on a cherché un petit peu durant ce camp d'entraînement-là. Puis tu réalises que finalement, la profondeur, soit, mmh, qu'elle n'est pas celle qu'on pensait, ou bien c'est juste des gars qui, dans certains cas, parce qu'ils sont trop jeunes, sont juste pas encore arrivés. Peut-être qu'ils, ouais, sont encore à l'université ou en Europe.
J'aimerais, ouais, quand même, je pense que vous êtes totalement, vous avez raison, mais j'aimerais quand même voir une équipe finalement en santé. Peut-être que ça va jamais arriver. Des fois, il y a des années que ça commence de même, vous n'arrêtez jamais. Que tu, ouais, prends jamais tous tes gars. Mais tu sais, Hoffman, ouais, un gars qui compte 30 buts, puis on l'a pas encore vu chez le Canadien. Tu sais, alors.
Non, puis le départ, Edmonton, ça fait très mal à cette équipe-là.
Ouais, je comprends, t'as la meilleure défenseur.
Ça fait très mal. Ouais. Ouais.
Ben, lui, puis PJ.
Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est ça la combinaison qu'il aurait voulu avoir pour commencer la saison, puis ça aurait eu des effets sur tous les autres duos de défenseurs. Là. Alors, c'est vrai qu'on va pas, on n'a pas vu, puis je suis d'accord que des fois, quand ça commence comme ça, ça peut continuer comme ça toute la saison, mais... Mais on verra, puis c'est ça qui est le fun, c'est que dès mercredi, on peut le voir pour vrai. Alors, on a très hâte, voilà, de voir ça, puis on a très hâte de te voir, Pierre, à Toronto. On va fêter ça, comme il faut.
Parfait, j'ai hâte de vous voir.
Oui, absolument. Merci beaucoup d'être venu au Super Athlétique, Pierre, toujours très apprécié. Bonne saison à toi, bonne saison dans tes studios de télévision, dans les arénas. Et puis, sur la multitude de plateformes où on te retrouve, évidemment. Évidemment, tout le monde, si vous n'êtes pas encore abonné à The Athletic, vous pouvez lire les chroniques de Pierre en vous abonnant à athletic.com. En fait, vous pouvez profiter d'un rabais sur la première année de votre abonnement en allant au athletic.com/support athlétique. Vous y trouverez donc les chroniques de Pierre, les chroniques de Harpin sur le Canadien, les miennes également. Et puis, évidemment, on couvre toutes les équipes de la Ligue nationale, de même que, en fait, toutes les équipes des sports majeurs professionnels en Amérique du Nord, plus la Premier League de soccer anglaise. Donc,
c'est ça.
Vous êtes gâtés, tout est au même endroit. Donc, merci tout le monde. Bonne saison. Merci encore, Pierre. Merci, Harpin. Et à bientôt. Thank you.